RFI, il est 9h à New York et Pointe-à-Pitre, 15h à Paris, 2h de Mans en temps universel. Et merci d'écouter RFI, dernière demi-heure de RFI Midi consacrée à Haïti et aux Amériques. Et comme chaque mois, nous serons en ligne avec nos confrères d'Aïbo Post, site de référence en Haïti, connu pour la qualité de ses reportages et de ses enquêtes. Haïti, où nous nous intéresserons aux conséquences de la hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump, qui le répète et qui l'a répété encore il y a quelques minutes. Il ne changera jamais de politique. RFI est aussi allé à la rencontre de la ministre des Sciences du Costa Rica, Paola Bogantes, qui a décidé de se lancer une mission, faire de son pays un champion de l'intelligence artificielle. Il y aura le journal des Outre-mer aussi avec Lou Surance. Bonjour.
Bonjour.
Et on parlera avec vous de la Guadeloupe où les indicateurs de la criminalité et de la violence sont en hausse.
Oui, en 2024, la Guadeloupe reste au deuxième rang national pour le nombre d'homicides. On en parle tout à l'heure.
À tout à l'heure, Lou. Mais avant cela, le journal.
RFI Midi.
Et c'est avec vous, Juliette Pietraszewski. Rebonjour.
Rebonjour.
Face aux droits de douane massifs annoncés par les États-Unis, les réactions s'enchaînent sur les marchés d'abord.
Les bourses européennes ont ouvert en baisse, suivant le mouvement en clôture des marchés asiatiques. L'Afrique du Sud appelle à une réforme et à un renforcement de l'OMC. Et parmi les conséquences sur les entreprises, les constructeurs automobiles ont commencé à se positionner face à ces droits de douane imposés par Donald Trump sur les voitures importées aux États-Unis. Des surtaxes de 25% sont entrées en vigueur hier sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées sur le sol américain. Volvo Cars est contraint de s'adapter et même si Volvo se porte plutôt bien comparé à d'autres constructeurs, c'est un coup dur, Otilia Ferré.
La seule chose à faire est de suivre la loi de Darwin et de s'adapter plus rapidement que les concurrents. C'est ce qu'a déclaré ce 3 avril Håkan Samuelsson, PDG de Volvo Cars, qui a aussi annoncé sa stratégie, à savoir réduire les coûts en augmentant les volumes de production dans l'usine Volvo située à Charleston, aux États-Unis. Deux modèles y sont déjà produits et un troisième devrait bientôt y être fabriqué.
Volvo est présent aux États-Unis depuis 1957 et notre intention d'y rester. C'est un marché très important pour Volvo.
Une voiture Volvo sur 5 est vendue sur le marché américain et les deux modèles qui y sont le plus vendus sont fabriqués dans la ville suédoise de Göteborg. Le constructeur est l'un des plus grands employeurs en Suède. Beaucoup s'inquiètent donc pour leur emploi, mais auprès des médias suédois, le directeur de Volvo a voulu se montrer rassurant.
Nous prévoyons que l'entreprise se développera et gagnera des parts de marché dans cette transformation vers l'électrique. Je ne vois donc pas un avenir où nous devrons réduire nos activités à Göteborg.
Il a aussi promis d'établir un programme clair d'ici un mois concernant la production et la manière dont Volvo va désormais vendre ses voitures. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et en réponse aux annonces de Donald Trump, la Chine va imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril. C'est ce qu'a annoncé Pékin à la mi-journée. La France en appelle au patriotisme des entreprises. Déclaration de Éric Lombard, ministre français de l'économie. Il a déclaré que la riposte européenne devait être proportionnée pour laisser une chance à la négociation avec les Américains.
Les annonces de Donald Trump sur les droits de douane ont fait l'effet d'un coup de massue, une bombe pour beaucoup de pays, des mesures dont l'entière portée n'est pas encore tout à fait appréhendable.
Notamment dans le secteur de la transition énergétique, déjà mise à mal par le détricotage des réglementations américaines en la matière par un président qui nie l'existence même du réchauffement climatique, Simon Rosé.
À très court terme, les droits de douanes américains peuvent avoir un effet bénéfique pour le climat. Leurs conséquences sur le commerce mondial, moins d'échanges de marchandises, moins de camions sur les routes, moins de bateaux, égale moins d'émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre. À plus long terme, l'effet sera en revanche bien plus nuancé, voire délétère. Parmi les principales concernées, on trouve en effet les industries lourdes de l'acier et de l'aluminium, très émettrices. Confrontées à une pression économique accrue, les experts craignent que les efforts nécessaires pour les décarboner passent désormais au second plan. Les mêmes experts s'accordent également à dire que ces taxes risquent d'entraver la transition vers une économie bas carbone. Elles augmentent en effet le coût des technologies vertes comme les panneaux solaires, les batteries électriques qui dépendent de métaux spécifiques. On pense également à l'automobile. Il sera plus difficile pour les constructeurs américains de faire la transition vers l'électrique, secteur essentiel à décarboner pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, mais par ailleurs peu soutenu, voire pas du tout, par l'administration Trump. La Chine pourrait en profiter et rediriger ses exportations vers des marchés plus ouverts affaires, et en particulier l'Europe.
Et en pleine guerre commerciale, la Russie, elle, est épargnée par les droits de douane décidés par Donald Trump. L'émissaire économique spécial du président russe, Vladimir Poutine, a par ailleurs rencontré hier à Washington des représentants de l'administration Trump. Une rencontre qui intervient dans un processus de rapprochement entre la Russie et les États-Unis. C'est aussi la première visite d'un haut responsable russe à Washington depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.
L'Ukraine et son avenir qui sont aussi au centre de la politique internationale de Donald Trump.
Nous saurons d'ici quelques semaines si la Russie veut la paix en Ukraine. Déclaration aujourd'hui du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Prise de parole qui intervient alors que l'administration du président Trump a proposé une nouvelle version plus large d'un accord sur les minerais avec l'Ukraine, révisant sa proposition initiale. Alors que la guerre se poursuit dans le pays, 5 personnes ont été tuées, une trentaine d'autres blessées dans des frappes russes de drones sur la ville de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, annonce de responsables ukrainiens la nuit passée.
Et sur le sol américain, il y a aussi du remue-ménage dans le milieu de la sécurité nationale et de la défense de l'administration Trump.
Oui, l'affaire Signal, la messagerie utilisée pour parler des plans d'attaque au Yémen par un groupe de responsables, entraîne une enquête au Pentagone. À Washington, Guillaume Nodin.
L'inspecteur général du ministère de la Défense l'a fait savoir directement au ministre Pete Hegseth. Il va enquêter pour savoir jusqu'à quel point lui et d'autres hauts responsables s'appuient sur une messagerie commerciale plutôt que sur les outils cryptés officiels pour discuter de sujets hautement sensibles, incluant au passage accidentellement un journaliste. Le groupe avait été créé à la mi-mars par le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Il vit des moments assez difficiles. Selon des informations de presse, il a créé une vingtaine de groupes du genre et il a aussi utilisé un courriel privé pour discuter d'affaires qui concernent le gouvernement. De plus, il a dû se séparer de plusieurs membres de son équipe cette semaine. Ce n'est apparemment pas une conséquence directe de l'affaire, mais plutôt une question de loyauté, une valeur cardinale pour Donald Trump. La décision est arrivée au lendemain d'une visite à la Maison-Blanche de la militante d'extrême droite et volontiers complotiste Laura Loomer. Selon plusieurs sources, elle s'est attaquée à une dizaine de personnes de l'équipe de sécurité nationale devant Donald Trump et Mike Waltz, qui a tenté de défendre ses hommes, manifestement en vain, ce qui peut être une indication de la fragilité de sa position. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
22h07 à Séoul, explosion de joie en Corée du Sud ce matin. Yoon Suk-yeol officiellement destitué.
La Cour constitutionnelle a rendu cette décision aujourd'hui, décision qui signifie son départ immédiat du pouvoir et l'organisation sous 60 jours d'une élection présidentielle anticipée. L'analyse de ce verdict par Christophe Godin, maître de conférence en sciences politiques à l'université Kukmin à Séoul.
Si vous regardez ce verdict, il est assez paradoxal. D'un côté, il a été rendu de façon unanime. Les 8 juges de la Cour suprême ont voté pour la destitution et les charges étaient accablantes parce que, premièrement, Yoon avait laissé des ordres écrits, donc les preuves étaient là. Deuxièmement, les ordres qu'il avait donnés étaient d'une gravité extrême parce qu'il avait demandé quand même de tirer sur la foule dans le cas où la foule aurait résisté, ce qui n'est pas arrivé heureusement. Et troisièmement, il avait quand même demandé de faire arrêter plusieurs responsables politiques de haut rang, notamment le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'opposition, mais aussi même le chef de son propre parti. Donc, ce qui est presque le plus étonnant, c'est que cette décision ait été si longue à rendre, parce que d'un point de vue juridique, le suspense était limité. Mon sentiment, c'est que les juges ont fait durer aussi longtemps que possible, parce qu'ils ont voulu rendre la vie le plus circonstancié possible, et ils ont aussi attendu de voir comment les événements allaient évoluer. Mais sur l'infraction, elle ne peut pas être plus caractérisée.
Des propos recueillis par Yelena Tomic.
Merci beaucoup Juliette Pietraszewski. On vous retrouve à 17h, heure de Paris.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Et comme chaque mois, nous sommes en ligne avec nos confrères du site Aïbo Post, site de référence en Haïti, connu pour la qualité de ses reportages et de ses enquêtes. Et aujourd'hui, Anne Cantner nous présente une enquête de Jérôme Wendy Norestil.
Bonjour Jérôme Wendy Norestil.
Bonjour Anne.
Vous avez travaillé sur un conflit foncier aggravé par la circulation des armes, un conflit à Montrouy qui date dans la région. Il faut rappeler qu'il n'est pas nouveau.
Effectivement, ce conflit terrien de la région de Montrouy et une région située à 65 km de Port-au-Prince date de 1990. Et ce conflit concerne deux localités de la commune de Montrouy, à savoir Piat et Délugé. Selon les protagonistes et un spécialiste interviewé dans le cadre de ce travail, le conflit concerne une centaine de carreaux de terre. Donc, ces espaces-là étaient occupés auparavant par l'un des grands propriétaires terriens, à savoir M. Olivier Nadal, Donc, depuis lors, les paysans de ces régions se livrent à des affrontements sanglants. Et selon un responsable municipal de la ville de Montrouy, près de 200 paysans sont morts depuis 2023. Et cela continue avec des attaques répétées entre les deux localités. Donc, c'est un conflit qui date depuis près de 30 ans dans la région.
Il y a eu beaucoup d'attaques, des attaques à l'arme blanche. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que l'emprise des gangs et la circulation des armes ont considérablement aggravé la situation.
Exactement. Maintenant, le conflit prend un tournant, et je dirais considérable, dans la mesure où, au sein des deux zones concernées et directement par le conflit, des groupes armés de plus en plus s'arment avec des fusils de guerre, soit pour mener les attaques ou pour repousser l'attaque du camp rival. Donc, ce qui est différent du contexte de départ, où les paysans se confrontaient avec des armes blanches, par exemple des machettes, etc. Donc, pour l'instant, et ces bandes armées qui trouvent leurs armes et munitions sur le marché illégal terrorisent la population civile, mais aussi ils rançonnent les voitures qui fréquentent la route nationale numéro 1 qui passe à Montrouy. Donc c'est ainsi, le conflit prend une tournure très différente. Et cette tournure-là est alimentée par le marché illégal, je dirais, des armes à feu en Haïti. Et il faut souligner que aussi, cela se fait dans un contexte où près de 500 000 armes de petit calibre sont en circulation dans le pays et donc près de la moitié de ces armes sont illégales. Si l'on se réfère à un rapport de la Commission nationale de désarmement est paru en 2020.
Et d'où elles viennent ces armes?
Dans le cadre de ce travail, nous avons repéré que ces armes proviennent et lors des attaques de la Côte des Acadiens au cours de l'année 2023. Où ces groupes ont attaqué les plages et selon un responsable de la ville, ils ont trouvé pas mal d'armes de guerre dans ces espaces. Et il y a aussi un marché illégal d'armes à feu où la plupart d'entre ces groupes armés procurent leurs armes et munitions.
Alors vous notez aussi dans votre article que des conflits fonciers comme celui-ci, il y en a ailleurs en Haïti et ils ont tous un point commun, c'est l'absence de l'État.
Oui. Ce conflit, c'est pas nouveau dans la mesure où ce qui est à la base de ce genre de conflit est foncier dans le pays. C'est toujours un problème de délimitation. Et la plupart du temps, les paysans qui n'ont pas toujours une conscience des limites ou bien qui ne se repèrent pas toujours assez bien, ils s'entretuent, ils se livrent à des affrontements. Donc, ce problème de délimitation devrait être adressé par l'État. On peut prendre comme exemple deux communes dans le département de la Tibonite. C'est Petite Rivière et Verrette. Donc, il y a deux localités aussi qui disputent près de 30 carreaux de terre. Donc, la trajectoire du lit d'une rivière redessine les limites. Donc, dans cette situation-là, il y a pratiquement pas de suivi auprès des autorités pour soit adresser ce problème de cadastre ou bien essayer de mettre, je dirais, un frein avec cette situation. Donc, c'est ça, l'absence de l'État. Dans ces genres de conflits, un problème aussi de cadastre amplifie ces conflits-là.
Les armes de guerre aggravent un conflit foncier à Montrouy. C'est un article de Jérôme Wendy Norestil à retrouver sur le site haïboposte.com. L'économie mondiale reste secouée par les annonces de Donald Trump. Une guerre commerciale qui a provoqué une dégringolade des indices mondiaux, toujours en baisse en Europe, en Asie ou encore à Sydney. Paris a perdu tous ses gains depuis le début de l'année. Les pays cherchent une réponse et calculent les droits de douane qui leur seront imposés. Ce sera 10% minimum. En Haïti, difficile de s'en satisfaire avec une crainte si le secteur de la sous-traitance textile, jusqu'ici protégé par des lois américaines en les exonérant de taxes, est concerné. Cela pourrait être dramatique, comme l'explique Enomi Germain, économiste haïtien.
Ce secteur concerne 90% des exportations totales du pays. Et deuxièmement, c'est un secteur qui emploie aujourd'hui plus de 30 000 personnes. Donc, si les 10% concernent ce secteur, ce sera une catastrophe en Haïti. Mais maintenant, il y a d'autres secteurs, comme par exemple le secteur agricole. L'agriculture en Haïti est en détresse, mais Haïti exporte certains produits agricoles et même des huiles essentielles aux États-Unis d'Amérique dans des conditions extrêmement favorables à des tarifs douaniers extrêmement faibles. Donc, dans l'hypothèse que la mesure mise en place par l'administration américaine concerne tous les secteurs, vous avez d'abord le secteur de la sous-traitance, mais également le secteur agricole et la petite industrie qui seront totalement négativement impactés.
Ce taux de 10%, pour un pays comme Haïti, qui, vous l'avez dit, traverse une crise politique, économique, ça reste un taux qui peut vraiment changer la donne et qui est haut?
Effectivement, pour Haïti, ça paraît être un taux extrêmement élevé. Lorsque vous avez une petite économie non compétitive, il y a justement des conditions préférentielles pour vous. Maintenant, passant d'environ 5% à 10%, ça veut dire tout simplement Haïti sera dans une logique pratiquement de non-intégration. On n'est pas suffisamment compétitif, ajouté au fait que les conditions internes d'Haïti se détériorent. Et ça empêche d'exporter, si vous voulez, de façon normale vers les États-Unis d'Amérique, qui constituent le premier partenaire commercial de ce pays en difficulté.
Des propos accueillis par Juliette Chénion.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Marine de la Moissonnière.
Ah, bonjour.
Elon Musk est dans le viseur des autorités européennes, c'est une information du New York Times.
Oui, la Commission européenne compterait infliger une amende record à X, le réseau social propriété d'Elon Musk, plus $1 milliard à régler cet été, à moins que la plateforme n'accepte de changer ses méthodes. X est accusé de ne pas suffisamment lutter contre les contenus illégaux et la désinformation.
La Commission européenne avait ouvert une enquête en 2023, rappelle le New York Times.
Et il ne s'agit pas de représailles envers l'un des principaux soutiens de Donald Trump en pleine guerre commerciale, affirment les autorités européennes. Un avis que ne partage pas l'une des sources anonymes du journal qui raconte que dans ce dossier, les choses ont soudainement accéléré ces derniers temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une amende si importante, l'idée est de faire un exemple pour inciter les autres GAFAM à se plier aux règles européennes de modération, estime le New York Times. Suite à la publication de l'article, X a réagi par une publication dénonçant un acte de censure politique jamais vu encore et une attaque contre la liberté d'expression. Pour le quotidien américain, on se dirige vers une bataille juridique interminable.
RFI, la radio del mundo.
Direction le Costa Rica, présent petit pays d'Amérique centrale d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Son objectif, devenir un acteur majeur, un champion de l'intelligence artificielle. C'est l'un des rares États d'Amérique latine à avoir mis en place une stratégie nationale sur le sujet. Un projet porté notamment par la ministre de la Science, de l'Innovation, de la Technologie et des Télécommunications, Paola Bogantes. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Aman, bonjour à tous.
Vous l'avez rencontrée alors qu'elle était de passage à Paris. Et alors, comment expliquer que le Costa Rica, on l'a dit, petit pays, soit en pointe sur ce domaine de haute technologie?
Bien, Alban, le pays a assez tôt compris dès les années 90 qu'il devait diversifier son modèle économique jusque-là fondé sur l'exportation de matières premières comme le café et la banane. Aujourd'hui, c'est une plateforme importante pour l'emballage et le test de puces électroniques et son principal produit d'exportation, ce sont les appareils médicaux. L'année dernière, le gouvernement costaricien a annoncé la mise en place d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Une stratégie qui vise en premier lieu, à moderniser le service public, selon la ministre Paola Bogantes.
Le défi, c'est de rendre l'État plus efficace dans l'utilisation de ses ressources, c'est-à-dire les impôts des citoyens. Comment faire en sorte qu'un fonctionnaire ne passe pas des heures à traiter une demande de permis de conduire, que les médecins passent moins de temps à rédiger des rapports administratifs sur ordinateur et plus de temps à soigner leurs patients? Nous devons utiliser l'intelligence artificielle pour numériser notre administration publique et faire en sorte que les services publics soient plus proches des citoyens.
Estos servicios pueden tener alcance a todos los ciudadanos.
Arim, les pays les plus avancés en intelligence artificielle, sans surprise, ce sont les États-Unis et la Chine. Pour un pays comme le Costa Rica, développer l'IA et ses propres chatbots, c'est aussi un enjeu politique.
Oui, exactement. L'un des enjeux majeurs, en fait, est d'inclure l'espagnol dans le développement de ces outils comme ChatGPT, effectivement, les chatbots qui s'appuient aujourd'hui principalement eh bien, sur les sources en anglais. Paola Bocontas insiste vraiment sur ce point-là.
On dit que l'intelligence artificielle parle anglais, que tous les logiciels parlent anglais, que les chatbots parlent anglais. C'est un sujet que nous abordons lors des rencontres internationales. Le Japon, par exemple, se mobilise investissent beaucoup pour que l'IA ne s'appuie pas exclusivement sur l'anglais. Les entreprises investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle, mais il faudrait une répartition plus équitable. L'IA doit pouvoir parler différentes langues. En Amérique latine, le premier défi est de récolter des données propres à notre région, puis de faire en sorte que les IA soient alimentées par des informations en espagnol. Sinon, nous exclurons une immense partie de la population qui ne parle pas anglais.
Et contrairement à l'Union européenne qui a développé une stratégie et une législation commune en matière d'IA, eh bien les pays d'Amérique latine, eux, avancent en ordre dispersé.
Et c'est justement ce que regrette la ministre costaricienne. Jusqu'à présent, effectivement, seuls 3 autres pays de la région ont adopté une stratégie nationale sur l'IA. C'est le Chili, le Brésil et l'Uruguay. On est donc encore très loin d'une approche commune face aux géants du secteur, mais de plus en plus de pays manifestent leur intérêt pour l'initiative du Costa Rica, explique Paula Bocantes.
Nous sommes déjà 4 pays à avoir développé une stratégie nationale en intelligence artificielle. Beaucoup d'autres pays d'Amérique latine se rapprochent de nous pour demander notre soutien dans l'élaboration de leur propre stratégie.
En attendant, le Costa Rica multiplie les initiatives en matière d'IA. Le gouvernement l'utilise pour la promotion de son image à l'international et dans l'enseignement à distance aussi, avec des professeurs virtuels générés par l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup à Rim Lipold de Marine de la Moissonnière. En Argentine, Javier Milei ne parvient pas à imposer ses choix à la Cour suprême.
Ouais, hier, le Sénat a refusé à une large majorité de nommer les 2 magistrats désignés par le président ultralibéral pour siéger à la Cour suprême. C'est l'une des défaites législatives les plus retentissante enregistrée par Javier Milei depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 16 mois, juge La Nation. Un échec d'autant plus cuisant si l'on prend en compte les efforts, les pressions et autres actions moins nobles menées par le pouvoir pour tenter de faire plier le Sénat, insiste le journal. Javier Milei a réussi l'exploit de faire voter ensemble des partis politiques qui sont rarement d'accord entre eux, ironise encore La Nation. Des partis qui ont surtout rejeté la méthode employée par le président, explique Parina Dossé. En février dernier, Javier Milei a nommé ses 2 juges par décret. L'un d'entre eux a même prêté serment et siège actuellement à la Cour suprême.
Alors, comment expliquer cet échec ?
Eh bien, le gouvernement n'a jamais délivré publiquement d'argumentaire solide et de narratif consistant pour justifier sa position, analyse La Nation. Le gouvernement s'est contenté de négocier et de faire pression dans l'ombre, souligne le quotidien, qui estime qu'il s'est dangereusement rapproché de la caste de politiciens corrompus et incapables que Javier Milei dénonce depuis toujours. Le président a voulu imposer ses choix par la force. Il n'a pas appris grand-chose des coups reçus depuis qu'il est au pouvoir, poursuit La Nation. Et il plonge le pays dans l'incertitude, incertitude juridique notamment, car on ne sait pas ce que le juge déjà en poste va faire. Selon Clarine, il devrait consulter les autres membres de la Cour suprême pour savoir s'il doit rester ou partir.
Marine, vous nous emmenez maintenant au Chili. Isabel Allende, la fille de l'ancien président, va perdre son poste de sénatrice.
C'est la fin d'une carrière parlementaire de plus de 30 ans, souligne la Tercera. Et c'est aussi la première fois de l'histoire du Chili que le tribunal constitutionnel destitue un membre du Congrès, insiste l'Observador. Alors, pourquoi la fille de Salvador Allende, 80 ans, est tombée en disgrâce ? Eh bien, elle a violé la Constitution, explique El Mostrador. En cause, la vente ratée de la maison de son père. À la fin de l'année dernière, l'État a cherché à l'acquérir pour en faire un musée. Problème, au Chili, les parlementaires n'ont pas le droit de passer des contrats avec l'État tant qu'ils sont en poste. Tout le monde a donc fait marche arrière, mais trop tard, la droite et l'extrême droite se sont emparés du dossier et ont saisi la justice. Une petite fille de Salvador Allende, copropriétaire de la maison, a elle aussi perdu son poste de ministre de la Défense. Une autre ministre a également été remerciée.
Et au-delà d'Isabel Allende, cette affaire éclabousse la gauche.
Oui, c'est ce qu'estime El Mostrador. Le Parti socialiste et toute la gauche chilienne sont frappés en plein cœur. Le président Gabriel Boric pourrait lui aussi être affecté, écrit le journal qui rappelle que le chef d'État a reconnu que c'est lui qui avait eu l'idée de racheter la maison de Salvador Allende, lui qui en a parlé à sa fille.
Merci beaucoup, Marine de la Moissonnière.
RFI Midi.
Et le journal des Outre-mer, c'est avec vous, Lou Surance, bonjour.
Bonjour.
Criminalité, délinquance, les défis sont nombreux pour le nouveau patron de la police nationale de Guadeloupe.
Et oui, le commissaire général Philippe Misignac a pris ses fonctions mardi en qualité de DTPN, directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe et des îles du Nord. Une arrivée dans un contexte tendu, tous les indicateurs de la criminalité et de la violence sont en hausse. Les précisions de Jessie Blanquet de Guadeloupe la Première.
Les indicateurs des crimes et délits enregistrés en Guadeloupe en 2024 ont connu une hausse. Les violences faites aux femmes, par exemple, explosent. 587 victimes recensées, soit plus de 20%. Dans cette même période, la Guadeloupe enregistrait un meurtre tous les 11 jours, soit 31 homicides et 496 vols à main armée. Un vol à main armée sur 7 était avec arme à feu. Un chiffre alarmant qui souligne la forte circulation des armes sur le territoire. Résultat, la Guadeloupe reste au deuxième rang national pour le nombre d'homicides, dont environ 9% en lien direct avec les règlements de compte des gangs ou encore avec le narcotrafic. Un état des lieux qui appelle à la vigilance face à une délinquance de mieux en mieux organisée et un challenge de taille pour le nouveau commissaire de la DTPN, mais pas que, s'ajoutera la grogne des syndicats de police, toujours inquiet de la baisse des moyens humains et matériels au commissariat.
On reste en Guadeloupe où la Fondation La France s'engage, soutient des projets d'innovation sociale. Chaque année, un concours permet de mettre en lumière les entreprises qui œuvrent dans le champ social et solidaire. Sur l'île, trois associations sont déjà labellisées. C'est le cas de Casa Recycle qui œuvre pour la protection de l'environnement par des activités de recyclage. Reportage de Lydia Quérin de Guadeloupe La Première.
Bienvenue à Casa Recycle, un atelier de réparation navale pas tout à fait comme les autres.
Faut finir les ponçages, finir les mastics.
Voilà 9 mois que ces jeunes gens découvrent les ficelles du métier, dits profils, épaulés dans leur projet professionnel pour un chantier d'insertion à 100%. Franck Bernier, du chantier d'insertion à Casa Recycle.
Il y en a qui ont eu des petits problèmes avec la justice. Il y en a qui se sont retrouvés en chômage longue durée, donc réorientés dans une nouvelle voie. Il y en a qui sont à saturation de certains domaines, qui veulent découvrir autre chose.
Chaque année, via un concours national, la Fondation sélectionne, récompense et accompagne durant 3 ans des projets sociaux et solidaires. Et Nora Hamon, directrice générale adjointe de la Fondation La France s'engage.
Globalement, les territoires ultramarins depuis l'Hexagone sont souvent oubliés, sont parfois même exclus de certains appels à projets. Donc pour nous, c'est important de pouvoir bien les détecter, ces pépites de l'innovation sociale qui n'osent pas forcément candidater.
Après Casa Recycle en 2019, 2 autres projets portés par l'association Aquaponie Antilles et Caribe Opéra ont été récompensés. Rendez-vous début juillet pour l'annonce des lauréats 2025.
Bonne journée sur RFI.
Bonne journée Lou. On termine en musique sur RFI avec Groundation, originaire de Californie, longtemps considéré comme un groupe légende du reggae mondial avec la star ivoirienne Alpha Blondie, la star jamaïcaine Mikal Rose. Sur RFI, on vous propose d'écouter The Youth. Légende du reggae mondial qui sera le 26 juin en concert à la Défense Jazz Festival près de Paris. c'est gratuit. Restez avec nous sur RFI dans moins d'une minute. Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon, tout ça.
RFI Midi.